Imaginons un instant un scénario digne d'un vrai thriller politique à grand budget. Genre, on y trouve des rois corrompus qui cherchent désespérément l'approbation du peuple à coups d'exécution publique.
Ah ouais, l'ambiance bien sombre dès le départ.
Mais grave, hein. Et ajoute à ça des évasions de prison littéralement impossibles, des parasites mortels qui dévorent des tyrans de l'intérieur.
Carrément appétissant, dis donc.
C'est clair. Et puis il y a aussi des affrontements mystiques avec des magiciens de cour qui finissent complètement aveugles. En fait, on pourrait croire à de la fiction pure, mais c'est le paysage historique brut d'un mouvement naissant au 1er siècle.
C'est fou quand on y pense, parce que la réalité dépasse souvent la fiction. Et c'est exactement ce que révèlent les notes, absolument fascinantes d'ailleurs, de la 14e conférence du docteur Craig Kinner.
Voilà.
Il y a décortiqué les chapitres 12 à 14 du livre des Actes.
Et le but de notre exploration d'aujourd'hui, c'est pas juste de faire de l'histoire ancienne ou un catalogue des faits ennuyeux, hein. Il s'agit d'analyser une dynamique très spécifique. En gros, le contraste frappant entre un pouvoir politique rigide, arrogant, qui finit par s'effondrer sur lui-même, et une force spirituelle vraiment subversive et hyper adaptable.
Exactement. Une force qui finit par survivre à l'Empire romain, ce qui n'est pas rien. Hein. C'est vraiment le prisme d'analyse parfait pour aborder ces sources.
Tout à fait.
En fait, l'auteur de ces textes, Luc, a structuré son récit avec un génie narratif assez impressionnant. Il alterne constamment entre Jérusalem, qui représente le centre du pouvoir institutionnel, et des persécutions violentes, et Antioche, qui est une métropole cosmopolite.
Là où le mouvement s'hybride et s'étend de manière exponentielle, c'est ça, hein ?
C'est ça, oui. On assiste à une véritable étude de cas sur la nature du pouvoir. D'un côté, t'as le pouvoir humain, éphémère, qui tente de s'imposer par la force brute, et de l'autre, une force perçue comme divine, qui refuse de se laisser confiner.
Et justement, pour comprendre cette rigidité politique, je crois qu'il faut se pencher sur la figure centrale de cette persécution, à savoir le roi Hérode Agrippa Ier. En lisant les archives, le mec apparaît comme l'archétype du politicien caméléon obsédé par les sondages d'opinion, quoi.
Ah c'est le moins qu'on puisse dire. Son parcours est complètement hallucinant.
Mais oui! Dans sa jeunesse, à Rome, il mène une vie de débauche absolue, il s'endette jusqu'au cou, il fait même la fête avec Caligula, bien avant que ce dernier devienne empereur. Enfin bref, c'est la quintessence de l'aristocrate romain décadent.
Ouais, le vrai jet-setter de l'Antiquité, quoi.
Exactement. Mais dès qu'il est placé sur le trône en Judée, bam ! Virage à 180 degrés. Il devient l'hyper-conservateur, le défenseur acharné des traditions locales. C'est fou, ce revirement.
Cette métamorphose, elle s'explique beaucoup par sa généalogie, qui était en gros son plus grand atout politique. Faut savoir qu'Agrippa Ier, c'est le premier roi juif officiel depuis son grand-père, le fameux Hérode le Grand.
Ah, Hérode le Grand, oui. Mais lui, il n'avait pas un problème de légitimité ?
Si, justement. Hérode le Grand était d'origine idumérenne, donc illégitime aux yeux de beaucoup. Par contre, Agrippa, lui, il possède du sang asmonéen, le sang de la lignée très respectée des Maccabées, par sa grand-mère Marianne.
D'accord, je vois. Donc il a une sacrée carte à jouer.
Exactement. Il sait que c'est inestimable pour s'attirer les faveurs de la majorité religieuse en Judée. Et comme tout despote dont le pouvoir repose sur un équilibre hyper fragile, il décide d'offrir à la foule ce qu'elle demande.
Du pain et des jeux, version macabre.
C'est ça. C'est la mécanique classique du bouc émissaire. Et c'est ça qui le pousse à ordonner l'exécution de Jacques, un des leaders de ce nouveau mouvement.
D'ailleurs, il y a un détail sanglant dans les textes qui m'a vraiment interpellé en préparant cette analyse. Agrippa choisit l'exécution par l'épée. Au début, je me suis dit, c'est juste une anecdote glauque, mais d'un point de vue juridique romain, c'est l'exercice d'une autorité très spécifique, non ?
Ah, mais totalement. Il s'agit de ce qu'on appelle l'exercice du jus gladi, littéralement le droit de l'épée. C'était le pouvoir suprême de vie et de mort, une autorité militaire et judiciaire qui était normalement strictement réservée aux plus hauts magistrats romains et aux gouverneurs de province.
Ah ouais, donc c'est pas juste un choix d'armes au hasard ?
Pas du tout. La décapitation par l'épée, même si le droit romain la considérait comme légèrement plus honorable ou, disons, miséricordieuse que la hache, ça reste une démonstration de force brutale. Et le fait qu'Agrippa utilise ce jus gladi pendant la fête des pains sans levain, c'est pas une coïncidence de calendrier.
Il profite du fait que Jérusalem est bondée de pèlerins pour faire le show, en fait.
Exactement. Il maximise l'impact. C'est une pure opération de relations publiques conçue pour asseoir son autorité politique absolue par la terreur légalisée, bien sûr.
Et vu que ça marche super mal comme outil de propagande, logiquement, il veut doubler la mise. Donc il s'en prend à la figure la plus visible du mouvement Pierre. Et là, c'est dingue. L'appareil d'État déploie une sécurité carrément paranoïaque.
Ah oui, c'est le niveau maximal d'alerte.
Pierre est enfermé, très probablement, dans la forteresse Antonia, une garnison massive qui surplombe le temple. Les textes parlent de 4 escouades, de 4 soldats. Il est physiquement enchaîné à 2 gardes, avec d'autres en faction devant les portes. Enfin bref, c'est Alcatraz au 1er siècle.
C'est la prison de haute sécurité par excellence, oui.
Et puis là, la source décrit cette intervention de l'ange. Les chaînes tombent en silence et les portes s'ouvrent, je cite, « toutes seules ». C'est une image littéraire hyper puissante.
C'est vrai. Et l'expression utilisée pour décrire ces portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, le terme « automate » en grec, c'est un trope littéraire très classique de l'Antiquité.
Ah bon ? On trouve ça ailleurs ?
Oh oui. On le retrouve dans les épopées d'Homère et jusque dans les récits de l'historien Joseph. Dans le monde gréco-romain, quand une porte s'ouvrait d'elle-même, c'était le signe indiscutable qu'une divinité était à l'œuvre. Le message sous-jacent est clair. Aucune architecture militaire humaine ne peut contenir une volonté spirituelle.
Mais il y a quand même un truc qui coince philosophiquement dans cette séquence. Enfin, je veux dire, si on observe la situation d'un point de vue purement logique, pourquoi cette intervention spectaculaire se produit pour Pierre, alors que Jacques, qui était tout aussi important, est laissé à son sort face à l'épée d'Agrippa? Les sources abordent cette contradiction.
Bah. C'est le fameux paradoxe inhérent à ce que les théologiens appellent la providence. Le docteur Kinner souligne bien qu'il n'y a pas vraiment de tentative, dans ses textes, de fournir une équation mathématique ou une justification simpliste.
Genre, il n'y a pas de réponse toute faite sur pourquoi l'un meurt et l'autre survit.
C'est ça. Mais d'un point de vue narratif et historique, le récit montre que Pierre n'avait pas encore terminé son rôle charnière. Il devait survivre pour faciliter une transition capitale qui se déroule au chapitre 15, le fameux concile de Jérusalem.
Ah oui, là où Pierre pèse tout son poids pour valider l'ouverture du mouvement vers les non-juifs.
Voilà, sa survie est vraiment traitée comme une nécessité stratégique pour l'expansion mondiale de cette foi.
D'accord, donc Pierre se retrouve dehors. Il déambule dans les rues froides de la ville haute et il se dirige vers la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Et là, on assiste à une scène d'une ironie mordante, presque une comédie de mœurs, quoi.
Ah, la fameuse scène avec Rhoda. Elle est excellente.
Mais oui, la servante, Rhoda, reconnaît la voix de Pierre. Elle est tellement submergée par l'émotion qu'elle court annoncer la nouvelle au reste du groupe en oubliant totalement d'ouvrir la porte. Elle laisse le fugitif le plus recherché de la région planté dans la rue.
C'est génial parce que c'est une scène qui apporte une humanité et une texture sociologique incroyable au récit. Le docteur Kinner utilise vraiment ce moment pour plonger dans le statut de Rhoda. Faut se rappeler que dans l'Antiquité, environ 70 à 90% de la population luttait pour sa survie en tant que paysan.
Des gens très vulnérables aux famines et aux taxes, quoi.
Exactement. En contraste, le statut de serviteur de maison dans une famille aisée, comme celle de Marie, offrait une sécurité économique nettement supérieure. Ces maisons de la ville haute possédaient de grandes cours intérieures et des portes massives, d'où la nécessité de frapper au portail extérieur.
Et il y a aussi une dimension de protection sociale pour ces femmes, non, Ève? Parce que les sources notent que les servantes étaient extrêmement vulnérables au harcèlement dans le monde gréco-romain.
Absolument. Les abus étaient monnaie courante. Mais le texte prend soin de montrer que dans ce foyer spécifique, structuré autour de cette nouvelle foi, Rhoda semble intégrée, en sécurité, et elle participe activement aux réunions de prière au beau milieu de la nuit. Elle a une vraie voix dans cette communauté.
Sauf qu'à cet instant précis, il l'écoute pas du tout. L'ironie est juste totale. Voici un groupe réuni clandestinement pour prier avec ferveur pour la libération de Pierre. Et quand le fruit de leur prière frappe littéralement au portail, leur première réaction, c'est de dire à Rhoda qu'elle a perdu l'esprit.
C'est le comble de l'incrédulité.
Grave. Ensuite, ils rationalisent en disant un truc genre « Ah, ce doit être son ange protecteur ». C'est fascinant de voir qu'ils ont assez de conviction pour risquer l'arrestation en se réunissant, mais ils manquent totalement de la capacité à croire que le miracle s'est réellement produit.
Ça montre bien une communauté traversée par le doute et le pragmatisme. On est très loin de l'image d'Épinal des figures religieuses parfaites. Ils réagissent exactement comme n'importe quel groupe humain confronté à une anomalie qui brise toutes les lois de la physique et du système pénal romain.
Ils cherchent une explication rationnelle à tout prix.
Voilà, ils cherchent une explication rationnelle ou théologique avant d'accepter le fait accompli.
Le contraste avec ce qui se passe juste après est hyper saisissant. Agrippa découvre l'évasion. Évidemment, il ne peut pas admettre une défaite face à une entité invisible, ça ferait désordre. Donc, il masque son impuissance par la brutalité et fait exécuter les gardes.
Oui, il applique le bon vieux principe militaire romain où la vie du geôlier répond de celle du prisonnier. C'est implacable.
Et après ce camouflet, il quitte Jérusalem pour Césarée. Et c'est là que la confrontation entre le pouvoir rigide et la réalité prend fin de manière super abrupte.
Césarée, faut le rappeler, c'était vraiment la vitrine de l'Empire romain en Judée. Agrippa s'y rend pour réguler une crise diplomatique et économique majeure avec les villes de Tyr et Sidon. Ces cités phéniciennes étaient des puissances maritimes, mais elles manquaient cruellement de terres arables.
Donc elles dépendaient de la Judée pour leur blé, en gros.
C'est ça, pour leur approvisionnement en céréales. Donc elles envoient une délégation pour apaiser le roi. Le décor de la rencontre est minutieusement documenté. Agrippa s'installe dans l'immense théâtre construit par son grand-père.
D'ailleurs, l'historien Joseph, qui est une source complètement externe au mouvement, décrit cette scène avec des détails visuels incroyables. Il dit qu'Agrippa porte un vêtement entièrement tissé de fils d'argent.
Ah oui, le fameux vêtement scintillant.
C'est ça. Il entre dans le théâtre au lever du soleil et les rayons frappent le métal. L'effet optique doit être éblouissant. Et c'est à ce moment que la foule, composée de ces diplomates païens qui ont désespérément besoin de sembler, commence à le flatter en l'acclamant non plus comme un homme, mais comme un dieu.
Et c'est là le point de bascule fatal. Dans le monde antique, accepter d'être divinisé de son vivant, surtout dans la tradition juive à laquelle Agrippa prétendait adhérer si ardemment en Jérusalem, c'est l'acte d'arrogance ultime, l'hybris total.
C'était pas très bien vu, même par les Romains, si je me souviens bien.
Tout à fait. D'autres figures politiques, comme le général romain Germanicus quelques décennies plus tôt, avaient catégoriquement refusé ces acclamations divines en Égypte, parce qu'ils étaient conscients du danger politique et moral. Mais Agrippa, lui, ivre de lui-même, il les absorbe sans broncher.
Et la conséquence est immédiate et décrite de manière très clinique. Il est frappé de douleurs abdominales foudroyantes, dévoré par les vers et meurt en 5 jours à peine, à l'âge de 54 ans. Le choix de mentionner spécifiquement les vers n'est pas innocent, j'imagine.
Bien sûr que non. Dans la littérature de l'Antiquité, une mort par maladie intestinale et par la vermine, c'est le topos, le symbole par excellence de la mort du tyran.
C'est une métaphore physique de sa corruption intérieure, quoi.
Exactement. L'image de la corruption intérieure qui devient visible. Le message est d'une ironie féroce. Le gars qui pensait détenir le jus gladi, le pouvoir de vie et de mort, et qui acceptait d'être appelé un dieu, il termine dévoré de l'intérieur par les organismes les plus infimes de la création. Son autorité n'était qu'une illusion tragique.
C'est pathétique au sens propre du terme. Et pendant que ce pouvoir centralisé pourrit littéralement sur pied, le récit déplace son attention vers le nord, vers la Syrie, à Antioche.
Le fameux nouveau centre névralgique.
Oui, et c'est là qu'on trouve un aperçu de l'ingénierie interne de ce mouvement. C'est qui le rend si résilient, en fait. On découvre l'équipe dirigeante de l'église locale et la composition de ce groupe défie toutes les normes sociales de l'époque.
C'est vrai que le casting est impressionnant. Hein.
Il y a Barnabas le chypriote, Saul l'intellectuel de Tarse, Siméon surnommé Niger, ce qui indique une origine africaine, et Lucius de Cyrène. Mais il y a surtout un nom dans cette liste qui crée une véritable onde de choc quand on comprend son origine, c'est Manaen.
Ah, Manaen. La mention de ce nom est une clé de compréhension majeure pour les historiens. Le texte précise qu'il a été élevé avec Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Le terme grec utilisé, c'est « syntrophos ».
Ça veut dire quoi exactement, « syntrophos »
Ça désigne un frère de lait ou un compagnon d'enfance élevé à la cour. Ils partageaient souvent la même nourrice et la même éducation que le prince. Et ces individus acquéraient généralement une immense influence politique à l'âge adulte.
Non mais attends, c'est l'équivalent d'avoir une top de très haut niveau, un insider qui connaît tous les rouages de la monarchie. Ça explique enfin d'où l'auteur, Luc, tire toutes ces informations hyper confidentielles sur les intrigues de cour de la dynastie hérodienne.
C'est fort probable, oui. Ça lui donnait un accès direct aux coulisses du pouvoir.
C'est incroyable, hein ? L'Empire qui tente de les écraser a déjà été infiltré à son sommet, non pas par des espions classiques, mais par la conversion idéologique. C'est vraiment le triomphe de la subversion intellectuelle et spirituelle.
Et cette diversité, c'est pas qu'un fait divers, c'est vraiment la matrice de leur stratégie. Un groupe dirigeant composé de nobles, proches du pouvoir, d'intellectuels romains, d'Africains et d'insulaires, ça possède une grille de lecture du monde infiniment plus riche qu'un groupe homogène cloîtré à Jérusalem. C'est ça qui leur permet d'innover.
Et cette innovation, elle se manifeste quand ils décident de projeter leur influence au-delà des frontières. Ils envoient Barnabas et Saul vers Chypre, guidés par ce qu'ils perçoivent comme l'impulsion prophétique du Saint-Esprit.
Tout à fait. Et l'approche de cette mission chypriote soulève d'ailleurs une question de méthode très intéressante.
Ah oui, parce que Paul est universellement connu aujourd'hui comme l'apôtre des gentils, donc l'homme qui a ouvert la voie au monde non-juif. Pourtant, la stratégie détaillée dans les notes montre que, à peine arrivé à Salamine, sur l'île de Chypre, il se dirige tout droit vers les synagogues juives pour commencer à parler. Pourquoi s'entêter à utiliser ce canal si sa mission est censée être plus large ?
C'est une excellente question. Il faut croiser ça avec les lettres rédigées par Paul lui-même pour comprendre la mécanique. Paul était un érudit formé par Gamaliel, l'un des rabbins les plus respectés de l'histoire. Il avait la légitimité intellectuelle absolue pour enseigner dans une synagogue.
Donc il était en terrain connu, en quelque sorte.
Oui, oui. Plus fondamentalement, il n'y a jamais considéré qu'il fondait une nouvelle religion.
Pour lui, il annonçait simplement l'accomplissement des promesses faites à son propre peuple. Et il y retournait systématiquement par une profonde loyauté, même si c'était extrêmement dangereux.
Dangereux à quel point, nous ?
Très dangereux. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il précise avoir subi à 5 reprises la punition des 39 coups de fouet. C'était une sanction disciplinaire spécifique appliquée par les autorités des synagogues. Il acceptait ce risque physique dévastateur juste pour maintenir le dialogue avec sa propre culture.
C'est d'un courage inouï. Bref, l'équipe traverse finalement toute l'île de Chypre jusqu'à Paphos, la capitale de la province, et là, ils sont convoqués par le gouverneur de l'île, Sergius Paulus, un citoyen romain appartenant à l'élite sénatoriale.
Un homme curieux et ouvert aux idées nouvelles.
Oui, mais qui garde quand même à sa cour un magicien du nom d'Elimas bar Jésus. Et c'est au moment précis où il se présente devant cette autorité romaine suprême qu'un basculement d'identité a lieu. Saul change de nom. Il devient soudainement Paul ou Paulus. Pourquoi opérer ce changement de marque à la seconde même où il rencontre le gouverneur ?
L'explication révèle une intelligence culturelle très aiguë. Dans le système romain, les citoyens possédaient généralement 3 noms, les fameux tria nomina. Paulus, qui signifie « petit », était très probablement son cognomen, son nom de famille romain qui attestait de sa citoyenneté. Mais la véritable raison de l'abandon du nom Saulos est super intéressante sur le plan linguistique.
Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a ce nom ?
En grec, la langue parlée à travers tout l'Empire, le mot « saulos » avait une résonance, disons, désastreuse. Il était couramment utilisé pour décrire la démarche déhanchée, un peu chaloupée et efféminée qu'on associait aux prostituées.
Non, non, sérieusement.
Si, si. Alors, imagine, se présenter sous ce nom devant un gouverneur romain, alors qu'on prétend apporter une vérité philosophique et spirituelle universelle. Ça aurait été un suicide en termes de crédibilité.
Ah ouais, le gros malaise, quoi. Il a bien fait de faire ce rebranding et de mettre en avant son identité romaine. Ça crée un pont immédiat avec Sergius Paulus.
Exactement. Il adapte son identité pour franchir la barrière de la réception.
Mais bon, la rencontre se passe pas sans accroc. Le magicien de la cour, Elimas, tente d'interférer et de discréditer leur message. S'ensuit une scène que je pourrais décrire comme un vrai court-circuit spirituel. Paul regarde ce magicien, l'appelle « fils du diable ». D'ailleurs, c'est une pique linguistique parfaite vu que « Bar-Jésus » signifiait « fils du salut » et il le frappe d'un aveuglement temporaire immédiat.
Le concept de court-circuit spirituel est une super métaphore pour décrire ça. Paul n'utilise pas cette puissance de manière aveugle, sans mauvais jeu de mots ou purement punitive.
Ah bon ? Hein ? C'est pas juste pour se venger d'interruption ?
Non. En fait, il reproduit méticuleusement sur Elimas l'expérience traumatique qui a transformé sa propre vie. Des années plus tôt, sur la route de Damas, Paul avait été plongé dans l'obscurité physique pour briser son arrogance et l'obliger à repenser toute sa conception de la vérité. En aveuglant Elimas pour une période donnée, il lui impose le même arrêt sur image brutal.
Un isolement forcé pour le faire réfléchir en somme.
C'est ça. En espérant que le magicien utilisera cette cécité pour ouvrir les yeux d'une autre manière.
C'est super profond. Mais tu sais, face à ces récits de magiciens et d'aveuglement soudain, c'est facile pour un esprit moderne de classer ça dans la catégorie de la mythologie ou des métaphores antiques. Mais l'analyse du docteur Kinner refuse cette facilité. Il documente des cas contemporains très spécifiques pour illustrer que ces dynamiques de pouvoir spirituel, ben c'est pas des curiosités d'un passé révolu.
Tout à fait. Faut comprendre que la vision du monde post-lumière strictement matérialiste, c'est une anomalie statistique dans l'histoire de l'humanité. Les notes de Kinner explorent des témoignages comme celui d'Emmanuel Musunga. C'est un éminent professeur de chimie en République démocratique du Congo.
Donc un esprit hyper scientifique, cartésien et tout.
Exactement. Pourtant, il documente rigoureusement comment trois de ses étudiants à l'université ont contracté un pacte de sang occulte dans le but d'obtenir une ascension politique rapide.
Et les conséquences de ce pacte n'ont rien eu d'une métaphore abstraite, apparemment.
Absolument pas. La détérioration a été violente et très physique. Les deux premiers étudiants sont tombés subitement malades, tourmentés par des terreurs nocturnes impossibles à expliquer médicalement, et ils sont morts très rapidement.
Mon Dieu, c'est glaçant. Et le troisième ?
Le troisième, terrifié, a cherché de l'aide. Et c'est seulement après une mobilisation intense, incluant 9 jours de jeûne et de confrontations spirituelles menées par des enseignants croyants, que cet étudiant a vu son état se stabiliser puis s'améliorer. Et Kinner cite d'ailleurs des cas similaires en Indonésie ou en Afrique du Sud.
Le but de ces comparaisons, c'est pas de forcer qui que ce soit à croire au surnaturel, on est d'accord. Mais ça établit que l'auteur antique, Luc, décrivait une réalité vécue et sérieuse pour eux. Dans ces cultures, l'affrontement spirituel est perçu comme une guerre bien réelle.
C'est exactement le point. Et pour en revenir à notre récit, le gouverneur Sergius Paulus, lui, est totalement convaincu par ce qu'il a observé et embrasse ce nouveau mouvement.
Ce qui est une victoire majeure. Et l'équipe de Paul ne s'attarde pas. Il décide de frapper un grand coup en s'enfonçant dans les terres de l'Asie mineure. Ils reprennent la mer, puis marchent à travers des territoires super accidentés en empruntant la Via Sébaste pour rejoindre la ville d'Antioche de Pisidie. C'est un détail géographique intrigant. C'est quoi la Via Sébaste et pourquoi cibler spécifiquement cette colonie isolée ?
Alors la Via Sébaste, c'était vraiment l'artère vitale de la région. C'était une immense autoroute militaire romaine, une prouesse d'ingénierie construite par l'empereur Auguste à l'origine pour permettre aux légions de réprimer les tribus montagnardes rebelles et de contrôler le territoire.
Donc ils utilisent l'autoroute des oppresseurs pour diffuser leur message. L'ironie est incroyable.
Sublime même. L'infrastructure conçue pour cimenter la domination impériale par les armes est utilisée par Paul pour diffuser une idée qui finira par transformer cet empire. Quant au choix d'Antioche de Pisidie, il est éminemment tactique. Les données archéologiques montrent que l'immense famille sénatoriale du gouverneur Sergius Paulus possédait de vastes domaines terriens, précisément autour de cette ville.
Ah, d'accord. Donc c'est pas du tout une errance au hasard. Paul vient de convertir un membre de la haute noblesse romaine et bam, il utilise immédiatement ce réseau. Il a dû obtenir des lettres de recommandation, le sésame social indispensable dans l'Antiquité pour s'assurer une entrée prestigieuse.
Exactement. Il tire parti du système de l'intérieur. Et une fois sur place, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul déploie une autre de ses capacités d'adaptation.
Qu'est-ce qu'il fait cette fois ?
Au lieu d'enseigner assis, comme c'était la stricte tradition rabbinique en Judée, il se lève pour prêcher et gesticuler. Il adopte les codes de la rhétorique gréco-romaine de la diaspora. À chaque étape, il étudie l'architecture sociale et culturelle de son auditoire pour s'assurer que le fond du message ne soit pas rejeté à cause d'un problème de forme.
C'est une véritable leçon d'ingénierie sociale, sérieusement. Si on prend un peu de recul sur toute cette analyse, le contraste est flagrant. D'un côté, on observe l'effondrement d'un système politique fondé sur l'arrogance et la force pure. Agrippa cherchait la divinisation théâtrale et s'est fait détruire par de simples vers.
C'est ça. Rome a construit des forteresses réputées inviolables, mais n'a pas pu retenir un pauvre pêcheur désarmé.
Et en face de cette machine rigide, on a vu l'émergence d'une force fluide. Une équipe dirigeante hétéroclite, combinant l'intellect romain, l'influence de cour des Hérodes, les racines africaines, capable de se fondre partout.
La capacité de survie d'une idée réside jamais dans sa rigidité. Leur résilience venait de leur acuité à discerner la véritable nature du pouvoir. Et comprenez que le pouvoir réside pas dans les épées ou les habits tissés d'argent, mais dans une souplesse intellectuelle capable d'utiliser les routes de l'ennemi.
Il y a une dernière chose qui ressort de cette analyse, une implication presque dérangeante pour nous aujourd'hui. On a vu cet homme intelligent abandonner le nom de Saoulos pour Paulus, simplement parce qu'il savait que la sonorité de ce mot allait le discréditer. Il a modifié son code vestimentaire, rhétorique, son réseau d'influence, son approche du monde pour être écouté.
Une vraie leçon de communication.
Exactement. Et ça donne à réfléchir. Pour quiconque souhaite ardemment introduire un changement majeur dans des environnements hostiles, à quel point est-on disposé aujourd'hui à altérer sa propre identité publique, à sacrifier son confort culturel pour garantir que notre message survive et prenne racine ? C'est vraiment le dilemme ultime et c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. Merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette analyse des rouages du pouvoir. À bientôt !